Du ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir ainsi.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens, très bien.
Racontez.
Oh oui, je devais avoir 5 ans.
Une journée particulière, c'est tous les dimanches à partir de 14h sur France Inter. Pendant une heure, nos invités reviennent sur un jour important de leur vie. Une journée particulière, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Et aujourd'hui, je reçois Ludmila Dabo. Bonjour Ludmila Dabo.
Bonjour Zoé.
Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie.
Une journée particulière. Zoé Varier sur France Inter.
Ludmila Dabo, vous êtes comédienne. Je vous ai vue dans le spectacle de David Lescaut, portrait de Ludmila en Nina Simone, dans lequel vous incarnez Nina Simone de manière époustouflante. Et vous chantez, vous dansez, vous semblez habitée par Nina Simone.
Je ne sais pas si je suis habitée par elle. Je sais même pas si vraiment je l'incarne. Je crois que l'idée, ça a été beaucoup de reprendre... ce qui était formidable pour moi, c'était vraiment de reprendre des chansons qui pour moi sont importantes, qu'elle a interprétées, qu'elle a parfois composées également, et puis aussi de me plonger dans une histoire que je connaissais déjà un peu, mais qui pour moi est une histoire un peu fondatrice dans ma manière de rentrer dans le théâtre.
Alors Ludmila Dabo, vous avez choisi comme journée particulière le 15 septembre 1963.
Oui.
Ce jour-là, le Ku Klux Klan commettait un attentat raciste dans une église baptiste à Birmingham, en Alabama.
J'aurais voulu ouvrir ce soir cette édition d'Interactualité par la chaleur qui est revenue. C'est là un sujet de vacances propre à former l'essentiel du journal d'un dimanche soir. Mais il y a quelques instants, une très courte dépêche bouleversait la mise en page de ce journal. Cette dépêche venait de Birmingham, Alabama, et elle disait ceci. Une bombe a fait explosion dans une église baptiste fréquentée par les Noirs pendant un office. Il y aurait au moins 4 morts. Guy Laval, avez-vous pu apprendre quelque chose là-dessus?
Le conflit racial semble entrer aujourd'hui en Alabama dans sa période la plus critique, alors que tout semblait calme. Un attentat explosif, vous venez de le dire, a été commis contre une église baptiste noire de Birmingham. Explosion d'une extrême violence, 4 morts. Il y a aussi de nombreux blessés, 16 dit-on, dont plusieurs sont gravement atteints. La police a lancé un appel pour retrouver une voiture à bord de laquelle se trouvaient 2 personnes. Selon des témoins, les 2 occupants de l'automobile avaient le teint très mat. Les enquêteurs pensent qu'il pourrait s'agir de métis, portoricains ou cubains, de mexicains ou bien tout simplement de blancs fortement colorés par le soleil.
Vous voyez, vous riez.
La fin est extraordinaire.
Incroyable, non?
Ah oui, oui, oui.
Un crime raciste où on tue des Noirs et on finit comme ça en disant on ne sait pas si c'était pas le soleil qui faisait qu'ils avaient une tête basanée.
C'est incroyable. C'est bon, j'en ai ri, mais l'intégralité de cette information est quand même assez bouleversante, faut le dire. Et c'est vrai que ce qui pour moi est le plus fort, c'est de savoir qu'en réalité, donc il y a eu 22 blessés dans cet attentat. Cette église était connue pour être une église afro-américaine, une église noire, puisqu'il y avait des églises pour les blancs et des églises pour les noirs. Et que les 4 personnes décédées sont en réalité des enfants.
Des adolescentes.
4 adolescentes, effectivement, voilà, qui étaient à l'orée de leur vie et dont la vie a été supprimée par cet attentat qui a été fait avec des bâtons de dynamite, en fait, qui ont été posés sous l'escalier de l'entrée principale de l'église.
À Birmingham, en Alabama, ça faisait des mois et des mois qu'il y avait des manifestations qui étaient réprimées dans le sang. Et ça a été, en fait, le moment le plus violent de cette lutte pour les droits civiques en 1963, ce 15 septembre.
Absolument, c'est un climax. Je crois que c'est aussi le fait que ce soit l'innocence qui soit touchée par la mort qui a été aussi saisissante. Parce que, effectivement, des pendaisons, il y en avait encore. Il y avait énormément d'événements qui se passaient. Mais il y avait aussi une mobilisation et aussi de blancs modérés qui commençaient à s'engager aux côtés des Noirs pour dire cette ségrégation, cette séparation des droits civiques dans les lieux publics des Noirs par rapport aux Blancs, elle doit cesser. On doit commencer à prendre la mesure des choses. Et donc, en fait, ce qui a été très fort, c'est que, évidemment, à ce moment-là, Martin Luther King était déjà un fervent acteur des manifestations pacifistes pour les droits civiques des Noirs américains. Et puis, beaucoup de gens ont suivi, de nombreux intellectuels, des artistes qui ont été très engagés, mais à l'endroit de leur citoyenneté et de leur identité également. Donc, du coup, c'est vrai que ça a été un moment saisissant. Et c'est à cet endroit-là que s'est fait vraiment le choc et le climax d'une révolte qui devait prendre part à des mouvements beaucoup plus importants. Donc après, on a vu une mobilisation qui a été beaucoup plus forte. Donc il y a aussi la marche sur Washington qui a commencé à ce moment-là. Le président Kennedy a été très important dans les mouvements. Et d'ailleurs, cette année-là, c'est une année phare pour ce président.
Et un an plus tard, en 1964, le Congrès votera la loi qui abolira la ségrégation raciale.
Absolument.
Mais alors, 3 jours après cet attentat, le 18 septembre 1963, ont eu lieu les funérailles de ces jeunes filles.
C'était hier, dans l'après-midi, dans la petite église méthodiste de la 7e avenue dans le quartier noir de Birmingham. Plus de 3000 personnes étaient présentes aux obsèques de Carol Robertson, petite noire de 14 ans victime de l'explosion survenue dans une autre église voisine dimanche dernier. C'était le seul cantique que l'on ait chanté durant le service funèbre. Les camarades d'école de Carol étaient les seuls à l'interpréter. Cet après-midi auront lieu, dans une autre église dans le quartier sud, les obsèques des 3 autres jeunes filles. La population noire tout entière de Birmingham rendra un dernier hommage aux petites victimes. C'est la 21e explosion de ce genre dans cette ville, cependant la première aux conséquences si dramatiques. Ici Birmingham, Alabama, à vous, Paris.
Ludmila Dabou, le FBI a mis la main assez rapidement sur les 4 personnes qui ont commis cet attentat. Et pourtant, ils n'ont pas été inquiétés parce que le FBI n'a pas poursuivi ses poursuites.
Absolument. Ce qui est saisissant, c'est qu'il a fallu 37 ans pour venir à bout de cette histoire, pour venir à bout d'une enquête judiciaire pour lesquelles des sentences ont été rendues. Il me semble que le premier inculpé est décédé en prison.
Ouais, c'est ça.
Et puis ça a mis quand même un peu de temps pour retrouver l'intégralité des 4, puisque ce sont également 4 personnes qui ont pris part à cet attentat et qui l'ont perpétré. Donc la première condamnation, je crois qu'elle a eu lieu en 77. Et les 2 autres condamnations, elles ont eu lieu dans les années 2000. Donc ça prouve à quel point une chape de plomb concernant à la fois les attentats perpétrés par le Ku Klux Klan et aussi les bavures policières aux États-Unis qui sont encore actuelles et qui sont subies plus particulièrement par les identités et les populations considérées comme immigrées ou noires, hispaniques, sont toujours présentes et tabou dans cette société, quoi. On est vraiment dans un, voilà. Et nous, on commence à s'interroger aussi en France à ces questions-là. Et on est en 2020.
En 1963, Nina Simone, folle de colère après cet attentat, va écrire la chanson Mississippi Goddam.
The name of this tune is Mississippi Goddamn. And I mean every word of it. Alabama's gotten me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi Goddamn. Alabama's gotten me so upset. Tennessee made me lose my rest, and everybody knows about Mississippi Goddamn.
I can't stand the pressure much longer. Somebody say a prayer. Alabama's gotten me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi. Goddamn! This is a show tune, but the show hasn't been written for it yet. Hound dogs on my trail, school children sitting in jail, black cat cross my path, I think every day's gonna be my last. Lord have mercy on this land of mine, we all gonna get it in due time. I don't belong here, I don't belong there, I've even stopped believing in prayer. Don't tell me, I'll tell you, me and my people just about do. I've been there so I know, you keep on saying, go slow. But that's just the trouble, washing the windows, picking the cotton, you're just plain rotten.
Ludmila Dabo, vous vous retenez de danser?
Oui, parce que ce morceau pour moi il est incroyable, il est musicalement il est extrêmement lumineux. C'est très difficile de se rendre compte si on ne parle pas anglais de quoi. De quoi parle la chanson. Donc on a du mal à imaginer que
alors
c'est...
Alors ça parle de quoi?
Bah, que c'est tout simplement ce qu'elle dit, Nina Simone, à cet endroit-là, c'est que le Mississippi, tout le monde sait ce qui se passe du côté du Mississippi. Tout le monde sait qu'il y a des lynchages, tout le monde sait qu'il y a des bavures, tout le monde sait que les Noirs sont encore dans une situation de grand danger. Et d'interdiction un peu partout, donc et rejeté. Donc du coup, c'est vrai que Nina Simone, elle a une manière d'interpréter, de chanter, de prendre en charge ses propres ses morceaux avec une telle ferveur, une telle conviction, une telle rage, et à la fois parfois tellement de lumière aussi, de mouvement, de rythme, et c'est assez incroyable, je trouve. Et après, ce qui est assez fou aussi, c'est que cette chanson, elle a été évidemment censurée dans les États du Sud
officiellement à cause de Goddamn.
Exactement. Et ce qui est très drôle, c'est que quand cette chanson passait à la radio, c'était bipé Goddamn, je crois.
Parce que ça veut dire quoi? Maudit soit Dieu, maudit.
Ça veut dire mince alors. Ça veut dire putain de manière plus vulgaire. Mais c'est quand même un terme qui reste, j'ai l'impression, moi, élégant. Mais bon, c'était prohibé dans la bouche d'une femme noire.
Et il paraît que Nina Simone s'est cassée tellement, était tellement en colère en chantant cette chanson, qu'elle s'est cassée la voix et qu'elle n'a jamais retrouvé sa voix d'avant.
Ouais, je crois qu'il y avait beaucoup de... Ça s'entend d'ailleurs, je trouve. C'est une chanson qu'elle chante avec beaucoup de passion. Et c'est vrai qu'en plus de ça, son mari ne voulait pas que cette chanson puisse exister. Son mari, c'était aussi son impresario. Donc du coup, pour lui, c'était pas possible qu'elle s'engage sur les questions des droits civiques et qu'elle prenne la parole à l'endroit pour dire « Nous sommes noirs et on en a marre de vivre ça ». Et elle a tenu tête et elle a dit « Cette chanson va exister parce qu'elle doit exister ».
Alors c'est le 15 septembre 1963, c'est votre journée particulière, Ludmila Dabo. Et j'ai trouvé que c'était un drôle de choix comme journée particulière, parce qu'en 1963, vous étiez loin d'être née. Alors je me suis dit quoi? Est-ce que c'est à la maison qu'on parlait de cette lutte pour les droits civiques?
Oui. Oui, c'est marrant parce que j'ai l'impression... moi je suis pas... vraiment, je reste quand même assez fragile sur la question de l'histoire afro-américaine, mais surtout de l'histoire des Noirs de France aussi, et aussi de l'Afrique. Ce que je retiens, je crois, c'est que la décolonisation, à un moment donné, à l'école, c'est quelque chose qu'on nous apprend très précisément, mais jamais sans rentrer dans les détails, c'est les dates. Alors, la décolonisation pour l'Algérie, c'est à tel moment, la décolonisation pour le Sénégal, c'est à tel moment, la République au Sénégal apparaît pour la première fois à tel moment, la décolonisation au Cameroun, voilà, c'est très chétif. En fait, je me permets de le dire, je crois que c'est vrai. Pardon pour les profs s'ils sont pas contents. Mais et puis à côté de ça, c'est vrai que nous on n'a pas grandi avec l'idée, mes sœurs et moi, que qu'on était des filles noires et que la vie serait difficile pour nous. Il se trouve que parfois on se rend compte que c'est quand même un peu difficile.
Parce que votre mère était et camerounaise, votre
Ma
père.
Mère est camerounaise et mon père est sénégalais. En plus de ça, mes parents dans leur jeunesse étaient communistes. Donc du coup, il y a cet endroit qui était pour eux très important quand même, qu'on connaisse l'histoire, certaines histoires. Et l'une de celles qui nous a été transmise, c'est celle qui est révélée dans un roman par Alex Allais, dans un texte qui s'intitule « Racine ».
Alors, c'est un texte qui était en bonne place dans votre bibliothèque familiale, oui. Et qui a été adapté en feuilleton.
Oui.
C'est une grande saga familiale, oui. Saga historique autour de l'esclavage.
Racine. Une histoire vraie. L'auteur, Alex Allais, a fait des recherches pendant 12 ans pour remonter son ascendance jusqu'à la 7e génération. Ce feuilleton reconstitue 2 siècles de l'histoire d'une famille noire. De l'Afrique primitive à la civilisation américaine.
Vendu.
Racine, une grande fresque historique. Racine, le témoignage fascinant de génération en génération, de continent en continent, du combat pour la liberté.
Hé, hey, Nigan, venez avec nous!
L'Africain, la chair de ta chair a retrouvé la liberté. Oui, nous sommes libres.
Nous sommes heureux de vous présenter le triomphe d'une famille américaine. Racine.
Ludmila Dabo, vous le regardiez, ce feuilleton? Vous
l'avez... Je l'ai tellement regardé. Bon, je sais pas si on a le droit de faire de la pub pour des jeunes, mais bon, c'était quand même le feuilleton qui est passé de manière assez régulière sur M6 dans la saga du dimanche. Il y avait ça, et puis il y avait les pignons verts aussi, les enfants d'Avonlea, que j'adorais aussi. Mais c'est vrai que ce feuilleton, on l'a regardé religieusement, en famille, chez moi, à chaque fois qu'il passait. Et c'est vrai que c'est à la fois un bouleversement, quand on est des enfants, d'être confronté à cette saga-là, mais c'est aussi avoir conscience de ce que c'est que l'histoire de l'Afrique dans sa globalité, l'histoire d'un continent qui du coup est contaminé par cette histoire africaine aussi, et puis voir en répercussion comment ça vient rentrer dans les mémoires jusqu'en Europe et en France tout particulièrement. Et voilà, moi c'est vrai que nos parents du coup ont été vraiment dans un échange très fort par rapport au choc que ça pouvait être, que certaines images, que de voir les corps dans les bateaux, dans les cales, allongés, et puis l'histoire de Kunta Kinte qui serait le premier de la famille d'Alex Allais, l'ancêtre de la famille d'Alex Allais à avoir été déporté pour arriver aux États-Unis comme esclave, alors qu'il était en train de chasser dans la forêt et qu'il est récupéré par des colons. Voilà, c'est très fort. Les images de ce film sont saisissantes.
Alors, il y avait ce film donc que vous regardiez en famille, ce feuilleton, et puis votre mère aimait Nina Simone.
Beaucoup. Et elle aime toujours, parce que de manière... je dirais hebdomadaire, et je pense qu'elle ne m'en voudra pas de le dire, elle écoute Nina Simone.
Le week-end.
Alors, le week-end, ça c'était à la maison. À la maison, quand nous on n'était pas à l'école, la musique c'était très important. Donc James Brown, on adorait, mais mes parents étaient aussi fans de Led Zeppelin, fans de Queen. Alors ma mère, Queen, c'est son groupe absolu. Mais et puis, il y avait James Brown, I'm Black and Proud. C'est quand même une chanson, voilà, mais il n'y a pas que celle-ci. Et effectivement, Nina Simone, on a beaucoup, beaucoup écouté Nina Simone. Alors, la chanson préférée de ma maman, c'est My Way. I Did It My Way, qui est la reprise qu'on connaît tous de Claude François, comme d'habitude, qui a été aux États-Unis, qui s'est fait connaître par Paul Anka et après surtout par Frank Sinatra. Et cette chanson a été reprise par Nina Simone.
Mais votre maman vous racontait, votre mère vous racontait l'histoire de Nina Simone?
Oui, c'est-à-dire que pour elle, c'était important, et ça revient un peu à l'histoire des fillettes, il fallait qu'on sache que c'est une jeune femme qui a été empêchée à son adolescence de poursuivre la carrière qu'elle désirait parce qu'elle était noire.
Et c'est ça qui vous touche dans l'histoire de Nina Simone, c'est que c'était une pianiste classique, une virtuose, qui jouait Bach magnifiquement, qui rêvait de devenir concertiste.
Oui.
Et on l'a refusé, on lui a refusé l'entrée au conservatoire Curtis de Philadelphie. C'est ça qui vous touche, vous, dans l'histoire de Nina Simone, c'est le fait qu'elle ait été empêchée, c'est cette espèce de détresse qui la poursuivra toute sa vie?
Oui, parce qu'en plus on l'entend, sa détresse. Je trouve que sa musique est empreinte de cette détresse-là, que quand moi je visionne des vidéos où on la voit dans des concerts, on voit une absence ou un manque, et que c'est un manque qui est lié aussi au passé et à une déchirure. Et elle l'évoque de manière assez incroyable. Moi, ça me fait à chaque fois pleurer de l'entendre raconter, quand elle a 50 ans, qu'elle est blessée de ne pas être rentrée et avoir fait la carrière qu'elle rêvait.
Et là, vous faites allusion à une magnifique interview dans une émission de Eve Ruggieri qui s'appelait « Musique au cœur » et c'était en 91.
J'ai commencé à étudier le classique à 5 ans.
À 5 ans.
5 ans.
Et vous avez continué, vous avez eu vos diplômes.
J'ai continué pour ben deux ans et après j'ai obtenu,
c'est parfait.
Le doctorate de musique de Amherst University dans Amherst, Massachusetts. Et le diplôme de humanities à Malcolm X College dans Chicago.
Et là, vous avez décidé de chanter parce que je crois que c'était quasiment impossible de faire une carrière dans le classique lorsqu'on était noir.
Yes, they refused me at Curtis Institute in Philadelphia. They refused a scholarship of mine and they didn't give me the opportunity to start as a black classical pianist. I was refused a scholarship because I was black.
Aujourd'hui, vous êtes une très très grande vedette, reconnue dans le monde entier. Mais est-ce que quelquefois vous regrettez cette carrière classique que vous n'avez pas pu faire?
Yes, I regret it. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. I think I would have been happier. I'm not very happy now.
La voix de Nina Simone qui se brise quand elle dit « Oui, je regrette, je suis navrée de n'être pas devenue la première pianiste classique noire de l'histoire. Je crois que j'aurais été plus heureuse, je ne suis pas très heureuse actuellement. » Et c'était en 1991. Elle avait plus de 50 ans quand elle dit ça.
Absolument. Et puis, on les voit dans ce court extrait qu'on peut retrouver dans les archives de Nina. On voit ses larmes, on voit son visage, on voit cette... On voit la détresse et on a accès directement à ce passé traumatisant pour elle. Et pour moi, c'est un moment, disons que pour moi, c'est assez fort d'être confronté à la réalité d'une carrière empêchée à cause des questions de race. Et ça me fait aussi m'interroger, puisque quand j'ai commencé à chercher à travailler professionnellement dans ce métier, je me souviens que mon agent, la première fois que je l'ai rencontré, on travaillait pas ensemble et je lui ai posé cette question. Est-ce que le fait d'être noir va être difficile ou pas? Et je lui ai demandé, est-ce que ça va être difficile de faire du cinéma? Est-ce que ça va être compliqué d'être vu dans des pubs? Est-ce que voilà, c'était encore une époque où c'était rare et où Harry Roselma, qui était pas encore le premier présentateur noir, qui a déchaîné les foules.
Qu'est-ce qu'on vous a répondu?
Et elle m'a dit, je peux pas te dire que ça n'est pas une difficulté, que ça rentre pas en ligne de compte. C'est pas une question de racisme, c'est une question d'ignorance ou de non-considération de cette question-là. Et c'est vrai que moi, je le comprends totalement parce que on n'a pas été élevé, encore une fois, avec mes sœurs, avec l'idée que on était des filles noires, on était des filles. et c'est tout. On faisait des études et la question d'être noire se posait pas. Elle a commencé à se poser quand on a commencé à travailler.
Alors en tout cas, Nina Simone, elle, de cette détresse, elle en a fait sa force. Ça a été le moteur de son combat. Elle a voulu changer les choses. Elle a voulu écrire cette musique des droits civiques. C'est devenu sa raison d'être. Et c'est ce qu'elle disait, c'est ce qu'elle chantait sur scène.
To me, we are the most beautiful creatures in the whole world, black people. So my job is to make them more curious about where they came from and their own identity and pride in that identity. That's why my songs, I try to make them as powerful as possible, mostly just to make them curious about themselves. We don't know anything about ourselves. We don't even have the pride and the dignity of African people. But we can't even talk about where we came from. We don't know. It's like a lost race.
Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love. Ain't got no faith. I ain't got no culture. Ain't got no mother. Ain't got no father. Ain't got no brother. Ain't got no children. Ain't got no aunts. Ain't got no uncles. Ain't got no love. Ain't got no mind.
Alors Nina Simone disait juste avant de commencer à chanter, pour moi les Noirs sont les plus belles créatures du monde, mon travail c'est de les éveiller à la question de leurs origines, de leur propre identité et de la fierté de cette identité. Elle disait aussi, c'est pour ça que j'essaie de rendre mes chansons aussi puissantes que possible pour piquer la curiosité des Noirs. On ne sait rien sur nous-mêmes, on n'a même pas la fierté et la dignité du peuple africain, on ne peut même pas parler de nos origines, on ne sait rien, on est une race perdue.
C'est vrai, je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai. En ce moment, si je puis me permettre de faire une petite une parenthèse, je poursuis la diffusion d'un spectacle dans lequel je joue, qui est Harlem Quartet de James Baldwin. James Baldwin, c'est le meilleur ami de un des meilleurs amis de Nina Simone, avec lesquels ils ont partagé toutes ces questions et avec lesquels ils se sont engagés. Et j'incarne un personnage qui, dans une de ses dernières interventions, dit. Une fille noire qui n'est pas née en Afrique est une étrangère à elle-même et une étrangère à tout le reste du monde. Et je crois que c'est quelque chose que moi, qui m'interpelle. Et
que vous
avec
ressentez,
lequel je me sens,
que vous
je me sens plus ou moins liée, oui, parce que je me dis qu'effectivement, on connaît l'histoire de nos parents, on connaît l'histoire de nos grands-parents, on peut connaître l'histoire de nos arrière-grands-parents, mais après, il y a quelque chose avec cette histoire de la colonisation, avec l'histoire de l'Afrique en termes de continent et d'une division aussi que je ne connais pas, qui m'est quand même un peu que j'ai pas forcément la curiosité d'aller chercher encore davantage, d'aller pousser. C'est vrai, voilà, je me rends compte que effectivement il y a quelque chose où par exemple très récemment quand notre président de la République a dit que l'esclavage avait été un crime contre l'humanité, ça a été les gens n'ont pas accepté qu'on puisse dire ça. Donc ça veut dire qu'il y a encore une chape de plomb et sur la manière de parler de l'histoire de l'Afrique, globalement, mais aussi particulièrement dans les détails, qui est difficile à entendre. Et je pense que nous, les jeunes Français de notre territoire, on est les héritiers d'une histoire qu'on a du mal à entendre, oui, qu'on a du mal à écouter, je pense.
Oh, cinnamon, where you
gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you, God, all on that day. I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord, 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 all on that day. So I ran to the river. It was bleeding around to the sea. It was bleeding around to the sea. It was bleeding all on that day. So I ran to the river. It was boiling around to the sea. It was boiling around to the sea. It was boiling all on that day. So I ran to the Lord. Please help me, Lord. Don't you see me praying? Don't you see me down here praying? But the Lord said, go to the devil. The Lord said, go to the devil. He said, go to the devil. All on that day. So I ran to the devil. He was waiting around to the devil. He was waiting around to the devil. He was waiting all on that day. I cried, power, 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 bring down, bring down, bring down.
Mila Dabo, Cinnamon, c'est une des chansons les plus connues de Nina Simone. C'est un gospel, c'est ça?
Oui, c'est un gospel et c'est ma chanson préférée, je crois, de Nina Simone. Je crois que ce morceau, Pêcheur, où vas-tu te réfugier? Que ça veut dire en français, Cinnamon, where are you going to run to? C'est chercher l'espoir, chercher une quête, chercher à être sauvé. Et c'est un morceau qui, je trouve, d'un point de vue spirituel, est fort parce que je crois que dans des moments où on doute, ou dans des moments où on a peur, dans des moments où on se sent esselé ou abandonné, on cherche du où trouver du réconfort. Et cette chanson, pour moi, c'est une apothéose de ce que ça pourrait être que cette quête qui parfois demeure, nous semble nous ramener à une condition d'impuissance totale. Voilà. Et je trouve que toujours dans sa manière d'interpréter et de se réapproprier ce gospel, il y a cette, et d'ailleurs il y a un moment où elle, qui est vraiment, où elle fait la pianiste solo et où elle joue, elle raconte cette histoire, elle continue à raconter avec son piano une quête de liberté, une quête de sauvetage. Et ça me touche, ça me touche.
Ça résonne, ça ce résonne. Que vous êtes en train de me dire, Lumina ah oui. Dabo, c'est que ça résonne extraordinairement avec ouais. vous. Hein
oui, sans doute.
Je sais pas. Et c'est pour ça que je vous ai invité. Parce que dans ce spectacle, donc Portrait de Ludmilla en Nina Simone, ça parle évidemment de Nina Simone, ça parle de ce qui vous lie à Nina Simone, et ça parle de vous. Parce qu'on sent bien là que il y a des choses qui se chevauchent, qui s'entremêlent, qui se répondent. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous inviter, Ludmilla Dabo.
Mais je vous remercie.
Alors, un petit saut dans le temps maintenant.
Oui.
Hein, on avance.
Une journée particulière sur France Inter.
Mes chers compatriotes, en m'adressant à vous ce soir, dans ce moment qui est, chacun le comprend, exceptionnel dans la vie d'un homme, je ressens une immense, une sincère et une profonde émotion. J'éprouve depuis mon plus jeune âge la fierté indicible d'appartenir à une grande, à une vieille, à une belle nation, la France. J'aime la France. J'aime la France comme on aime un être cher qui m'a tout donné. Maintenant, c'est à mon tour de rendre à la France ce que la France m'a donné.
Ludmilla Dabo, évidemment, vous avez reconnu, c'était le discours de Nicolas Sarkozy le jour de son élection, le 6 mai 2007. Juste après, il se rendait au Phuket pour fêter ça avec ses amis Bernard Arnault, Bolloré, Bouygues, Dassault, Decaux, Pinault. Et puis les époux Balkany. Et puis en entendant cette archive, là, on vient de se rappeler que l'homme africain n'est pas rentré dans l'histoire. C'est une phrase de Nicolas Sarkozy aussi, vous vous en souvenez?
Tout à fait, oui, oui, oui.
Mais enfin, c'est pas pour ça que vous avez choisi cette date, Ludmilla Dabo. Pourquoi vous l'avez choisi? Pourquoi ce moment, ce jour-là, est important pour vous?
Ce moment, pour moi, il est important parce que le lendemain de l'intronisation de Nicolas Sarkozy aux fonctions de président de la République française, j'ai passé le dernier tour du Conservatoire national d'art dramatique. Et quand je suis arrivée au conservatoire, dans le hall du conservatoire, on était tous dans une très grande concentration. Et à un moment donné, quand je lève la tête, je suis en face de Jean Sarkozy, qui est vraiment
le fils
de Nicolas Sarkozy, qui accompagnait au concours du conservatoire, Marie Tapie, qui était au dernier tour du conservatoire également. Donc c'était une chose assez folle. J'avais l'impression d'être à moitié dans ma nuit à la maison hier, en train de regarder la voiture présidentielle qui partait au Phuket, et tous les amis qui rentraient, et lui-même qui était dans... Enfin voilà, il y avait une espèce d'euphorie de cette nuit présidentielle. Et puis le lendemain, voilà Jean Sarkozy qui était dans une posture en plus assez glorieuse. Il était vraiment dans un moment de lumière assez fort. Et puis on s'est tous tournés vers lui comme si il était un peu lui-même le président. Il était dans avec un très grand sourire. Et ça m'a interpellée.
Alors vous êtes reçue, c'est formidable, c'est une très grande école.
Super,
trop bien, vous êtes trop fière.
Complètement.
Je ne sais pas si Jean Sarkozy a été reçu ou la fille Tapie, mais vous êtes reçue, Ludmilla Dabo. Et puis vous faites vos études, et puis à la fin de la seconde année, les élèves ont carte blanche. C'est-à-dire que certains d'entre vous ont pu monter un spectacle, créer un spectacle devant leurs collègues. C'est ce qui vous est arrivé. Et vous, évidemment, Ludmilla Dabo, vous avez choisi de faire un spectacle autour de...
Nina Simone.
Et alors, racontez-nous, parce qu'il s'est passé quelque chose de très important pendant votre spectacle. Qu'est-ce que vous avez voulu faire et qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, le spectacle était constitué de plusieurs séquences. Et on s'est dit que c'était intéressant d'interroger... d'une manière un peu choc, ce que pouvait représenter le regard qu'on porte sur l'Amérique et sur cet artiste qui a été engagé, et le manque d'engagement ou l'interrogation que ça nous fait avoir nous-mêmes sur le territoire hexagonal, et notamment dans cette école nationale qu'est le conservatoire. Donc on a décidé de reprendre un des discours qui a été plutôt célèbre, qu'elle a fait dans une université où elle donnait un concert et où il y avait très peu de Noirs, et où elle a demandé aux Noirs qui étaient au concert ce jour-là de se lever pour qu'elle leur attribue, pour qu'elle leur dédie l'une de ses dernières chansons qu'elle allait interpréter ce jour-là, qui est Young, Gifted and Black.
Qui est comment? C'est laquelle?
To be young, gifted and black. Oh, what a lovely, precious dream. To be young, gifted and black. Open your heart to what I mean. In the whole world, you know, there are the million boys and girls who are young, gifted and black. And that's a fact. Donc, être jeune, doué et noir. Et nous avons fait le choix d'attribuer cette chanson, nous aussi, aux deux noirs qui étaient dans notre promotion.
Alors ça veut dire, Ludmila Dabo, que vous étiez sur scène en train de chanter, enfin avant de chanter cette chanson, vous avez interpellé les élèves noirs qu'il y avait dans la salle de spectacle du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique en leur demandant de se lever.
Oui.
Et qu'est-ce qui s'est passé?
Eh bien, ils ne se sont pas levés. D'une part, et puis c'était c'était notre première tentative de création avec mes camarades, donc ça devait être aussi très 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 maladroit peut-être dans la manière de proposer cette scène-là, mais en tout cas, elle était assumée et affirmée. Donc moi, je disais ce discours-là, je reprenais la place de Nina Simone à ce moment-là, et puis il y avait Young, Gifted and Black qui passait derrière et où je leur ai demandé de se lever. Donc ça n'est pas arrivé. Et puis après ça, le directeur
Attendez, parce que deux secondes avant que la réaction du directeur, vous êtes sur scène et personne se lève. Dans votre tête, il se passe quoi?
Ah, il se passe que moi, je continue parce que je suis complètement investie dans cette démarche-là. J'ai envie de créer ça. C'est un choix qu'on a fait collectivement avec mes camarades et on avait vraiment envie d'interpeller, d'interroger en quelques secondes parce que c'est vraiment un moment qui durait 30 secondes. C'était très furtif. Mais on avait envie de ça. Mais c'est quand même quelque chose qui a interpeller nos camarades,
interpeller
des quelques profs qui étaient présents aussi. Les quelques profs, d'ailleurs, ils étaient quasiment tous là, puisqu'on a présenté le spectacle sur deux jours. Et puis, le directeur du conservatoire de l'époque m'a demandé si on pouvait échanger tous les deux sur ce qu'il avait vu, et puis sur ce moment précisément. Voilà, parce que lui, ça le mettait mal à l'aise. Il avait l'impression qu'on l'accusait de quelque chose, que c'était d'ailleurs l'ensemble des professeurs et des artistes qui ont participé au concours, qui étaient interpellés sur cette question-là. Et c'est vrai qu'en fait, pour nous, c'était aussi poser la question de ce territoire qui est fait d'une mixité qui devient de plus en plus grande, de plus en plus...
Le territoire, la France, vous voulez dire ?
Voilà, et de se demander si dans une école d'art, c'est normal d'être si peu nombreux.
Vous étiez combien ? Combien il y avait de noirs dans la salle quand vous avez fait votre spectacle ?
Il y en avait deux. Il y en avait deux.
Et il y avait deux noirs sur scène, c'est ça?
Nous étions deux noirs sur scène. Deux filles, deux garçons. Deux garçons dans la salle, deux filles sur le plateau. Et c'est vrai qu'après ça, comme ça, on a senti que ça avait été un moment qui avait été gênant. Et qu'à l'époque,
Mais vous l'avez analysé comment, vous, cette gêne? Comment vous l'analysez?
Je crois que c'est un mélange de plein de choses. Je pense qu'il y a, le désir de dire, mais non, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais pourquoi elle dit ça? Mais pourquoi à ce moment-là ça existe? Puis il y a en même temps le, oh là là, on est vraiment sur ces questions-là, au conservatoire. Et, le fait aussi de se dire, non, mais voilà, c'est un peu encore un militantisme de rien du tout. Voilà, ils veulent jeter un pavé. Ils veulent jeter un pavé. Je pense qu'il y avait de tout ça. Et donc nous, avec mes camarades, on s'est dit que ce qui serait important, c'est de pas éluder ce moment-là qui visiblement avait été choquant. J'en avais parlé avec mon maître, mon professeur d'interprétation, qui m'avait dit que lui, ça l'avait vraiment touché, qu'il avait trouvé ça super et que ça ramène à des questionnements qui vont être difficiles à accepter. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rédigé un texte que j'ai partagé avec mes camarades, qu'on a placardé sur tous les murs du conservatoire, et où j'ai dit, voilà, merci d'avoir partagé ces deux jours avec nous. Il s'est passé quelque chose pendant le spectacle qui, visiblement, vous a interpellé, puisque vous en parlez dans les couloirs. Donc, si ça vous dit, on se retrouve dans une salle ou au bar du conservatoire, et on s'en parle pour voir ce qu'on peut tirer de ce questionnement.
Et alors ?
Et personne n'a répondu.
Alors c'est fou parce que personne n'est venu, c'est terrible ce que vous racontez, Ludmila Dabo, personne n'est venu alors que tout le monde avait ricané quand vous aviez dit, vous aviez avoué avoir envie de jouer Agnès dans l'école des femmes de Molière. Oui. Et là tous les élèves de votre classe du conservatoire avaient ri quand vous aviez dit ça. Et là personne ne vient.
Bah oui, je pense que... Il y a quelque chose d'inconscient qui fait qu'on a envie d'éluder les questions d'identité qui pourtant aujourd'hui sont de plus en plus interrogées d'un point de vue social, d'un point de vue politique, d'un point de vue économique, d'un point de vue... On est dans un moment culturel, on est dans un moment où on se pose en permanence la question de l'identité. On a l'impression que certaines communautés se replient sur elles-mêmes, que il y a des demandes aussi de reconnaissance qui sont présentes et de nécessité de créer un mélange beaucoup plus important. Et c'est vrai qu'encore à cette époque-là, c'était difficile de s'en parler.
Ludmila Dabo, il faut dire que vous avez pris votre revanche parce qu'à la fin du spectacle sur Nina Simone et sur vous, donc ce spectacle de David Lescaut, vous jouez et vous chantez cette scène de l'école des femmes et vous reprenez le rôle d'Agnès en dansant.
Oui, mais que faisait-il étant seul avec vous ?
Il jurait qu'il m'aimait d'une amour sans seconde et me disait des mots les plus gentils du monde, des choses que jamais rien ne peut égaler et dont toutes les fois que je l'entends parler, la douceur me chatouille et là-dedans remue certains je ne sais quoi dont je suis tout émue.
Outre tous ces discours, toutes ces gentillesses, ne vous faisait-il point aussi quelques caresses ?
Autant il me prenait et les mains et les bras et de me les baiser, il n'était jamais là.
Ne vous a-t-il point pris, Agnès, quelque autre chose ? Ouf !
Et il m'a
quoi ?
Pris
le... plaît-il ?
Je n'ose et vous vous fâcherez peut-être contre moi.
Non,
si.
Mon Dieu, non.
Jurez donc votre foi.
Ma foi, soit.
Il m'a pris, vous serez en colère.
Non, si. non, diantre, que de mystère, qu'est-ce qu'il vous a pris ?
Il...
Je souffrant d'années.
Il m'a pris le ruban que vous m'aviez donné. À vous dire le vrai, je n'ai pu m'en défendre.
Passe pour le ruban, mais je vous laisse apprendre s'il ne vous a rien fait que vous baiser les bras.
Comment est-ce qu'on fait d'autre chose ?
Non pas, mais pour guérir du mal qu'il dit, qui le possède, n'a-t-il point exigé de vous d'autres remèdes ?
Non, vous pouvez juger s'il l'en eût demandé que pour le secourir, j'aurais tout accordé.
Grâce aux bontés du ciel.
Agnès, dans l'école des femmes, revue par David Lescaut et par vous, Ludmila Dabo, il faut dire que vous chantez et vous dansez comme Nina Simone en disant ce texte. De Molière.
Ouais, alors je sais pas si c'est comme Nina Simone. Ouais, c'est-à-dire que cette petite chose que David a eu envie d'inventer avec moi, voilà, c'est un moment de régal aussi où on s'amuse tous les deux. Et David, il est plein de malice, il est plein d'humour. Ça nous a demandé beaucoup de travail,
j'en
quand
suis
même,
sûre.
D'essayer de mettre un peu en musique et en rythme ce texte de Molière qui est d'ailleurs très musical. La versification, c'est musical. Et je pensais pas faire ça. C'était une invitation de David, un désir de David en m'entendant échanger avec lui dans la création, le metteur en scène du spectacle. Et je lui en suis très reconnaissante parce que j'ai beaucoup de plaisir à faire ça.
La vie a qui roulait.
Journée particulière, Zoé Varier sur France Inter.
Bon, alors 15 septembre 63, c'est votre journée particulière, Ludmila Dabour. En 1963, on est en pleine guerre froide. Le téléphone rouge est mis en place entre la Maison Blanche et le Kremlin après la crise des missiles de Cuba. En juin 63, John Kennedy fait un voyage en Europe et à Berlin où il prononcera son fameux discours avec sa phrase désormais célèbre.
Ich bin ein Berliner.
Bravo Ludmila Dabour. Et il sera assassiné quelques mois plus tard à Dallas. Mm-hmm. Plus léger en 63, Salut les copains organise une soirée de la chanson, une nuit de la chanson, place de la Nation. Alors en 63, Sheila chante L'école est finie, Johnny chante L'idole des jeunes et Clo-Clo chante ça.
Tout le monde bat des mains avec moi. Je cognerai le jour, je cognerai la nuit, j'y mettrai tout mon cœur, je bâtirai une ferme, une grange et une barrière, et j'y mettrai mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh, oh, ce serait le bonheur. Tout le monde chante encore. Oh, 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 oh. Plus fort.
Vous chantez?
Je sonnerai la nuit.
Bon, rien d'autre à ajouter sur Clo-Clo, on le connaît par cœur. Mm-hmm. En 1963, plus triste, une grande dame de la chanson disparaît, c'est
Édith Piaf.
Écoutez ce qu'elle disait quelques mois avant sa mort.
Édith Piaf, chaque fois qu'on vous voit réapparaître sur cet écran pour chanter, on a l'impression d'assister à un miracle qu'on n'attendait plus. D'où vous vient cette force, ce courage qui vous tire toujours des plus mauvais cas?
Je pense que c'est la foi en tout.
Votre vie a été plutôt désordonnée, tourmentée. D'autres artistes en sont plus ménagés de leur vie. Est-ce que vous pensez que si vous les aviez imités, vous couleriez les jours plus tranquilles?
Oh, probablement. Mais je pense que je n'aurais pas donné ce que j'ai donné au public. Et je pense que, comme tout ce que je fais, si je donne quelque chose, je le donne entièrement.
Vous ne croyez pas aux économies?
Ah non, surtout pas.
Ni moralement, ni matériellement.
Oui, surtout pas.
Vous ne pensez pas à la vieillesse, par exemple?
Non. Quand elle arrivera, on le verra bien.
Est-ce que vous avez peur de la mort? Est-ce que vous avez eu peur de mourir?
Non, j'ai pas peur de la mort.
Vos chansons chantent toujours l'amour. Mais on sait que pour vous, l'amour n'est pas qu'un mot, n'est pas seulement un thème de chanson. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous avez attendu de l'amour, Édith Piaf?
Mais ce qu'il m'a donné. Le merveilleux, le triste, le tragique, l'extraordinaire...
Des déceptions aussi.
Je n'ai jamais été déçue.
Magnifique Édith Piaf, que vous chantez aussi, parce que vous ne chantez pas seulement Nina Simone, vous chantez aussi Édith Piaf, et étonnamment, elles peuvent se rejoindre aussi.
Oui, oui, tout à fait. Nina Simone a rédigé ses mémoires, et elle termine ses mémoires ainsi. Aujourd'hui, aussi heureuse qu'on peut l'être sans un époux à chérir, je me suis attelée à la rédaction de ce livre, revoyant ainsi défiler une vie qui, après mûre réflexion, ne me laisse aucun regret. Beaucoup d'erreurs, des moments éprouvants, et souvent des souvenirs plus vibrants que tout. Des années de joie, difficiles certes, mais heureuses, dans le combat pour les droits de mes frères et sœurs du monde entier en Amérique, en Afrique. Mais je savais alors et je sais toujours que ce bonheur qui perdure et que j'éprouvais quand nous progressions côte à côte est de ce que peu de gens ont connu dans leur vie. Voilà, bonheur et souffrance mélangés.
Merci Ludmila Dabour d'avoir passé cette heure avec nous. Le spectacle Portrait de Ludmila en Nina Simone, donc mise en scène par David Lescaut, sera en tournée dans toute la France à partir du début du mois de mars. Mmh. Pour donner une idée, il sera à Évreux le 5 mars, à Marciac le 7, à Guingamp le 10. Vous trouverez toutes les dates de cette tournée sur le site de l'émission. Merci Ludmila Dabour.
Merci à vous Zoé, merci beaucoup.
C'était une journée particulière, une émission préparée par Hugo Combes, Alina Véronique de Saint-Pastou, à la réalisation Flora Bernard, à la programmation musicale Djoubaka et à la technique aujourd'hui pour notre plus grand plaisir, Philippe Duclos. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site de franceinter.fr. À la semaine prochaine.